Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, une nouvelle chronique consacrée aux bons pilotes du peloton. Mais ces bons pilotes ont fait des erreurs et il faut en parler. Alors d'habitude je parle pas mal des mauvais pilotes qui font des erreurs, hein, mais là j'enfonce des portes ouvertes quand je parle de, par exemple, de Pastor Maldonado. Bon, désolé, c'est à chaque fois l'exemple qui me vient en premier à l'esprit. Mais lorsque les bons pilotes font également des erreurs et surtout sur un cycle donné, pas juste sur une course, mais vraiment sur un cycle de course, il faut en parler parce que c'est un phénomène intéressant à analyser. Et là, je vais l'analyser sous le prisme de trois pilotes, dont deux en particulier, à savoir Nico Hülkenberg et Romain Grosjean. Et le phénomène est un peu moins important concernant Valtteri Bottas, mais j'en parlerai quand même un petit peu, histoire d'illustrer mon propos. Donc tout d'abord, on va commencer par le pilote allemand Nico Hülkenberg. Avant ça, oui. Parce que j'avais dit il y a quelques semaines, concernant Analyse F1, qu'il y aurait deux nouveaux formats, enfin deux nouvelles émissions, deux nouveaux types de podcasts, en tout cas dans Analyse F1, à savoir HSD, High Speed Dating, que vous connaissez désormais, et Banalyse F1, qui n'est toujours pas en place. Alors, Banalyse F1 ne risque pas d'être en place de sitôt, puisque là, vraiment, je ne peux pas libérer de temps en plus, dans mon emploi du temps, dans mon temps libre, pour m'en occuper. Du coup, ça attendra un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que vous profiterez d'Analyse F1 avec ce que je vous propose, c'est-à-dire les chroniques et l'émission quasi mensuelle, on va dire, et d'autre part, les High Speed Dating, qui sont qui sont différents du reste. Maintenant, je vais revenir sur la chronique, donc la méforme de fin de saison des bons pilotes du peloton. Et on commence donc, je l'avais dit, par Nico Hülkenberg, le pilote allemand de chez Force India. Alors toute la saison avec Sergio Pérez, ça a été un peu à toi, à moi, dans le sens où quand l'un échoue dans sa course, fait des erreurs ou a un problème mécanique, l'autre était quasiment toujours là pour rattraper le coup et marquer des points. C'est ça qui est très intéressant avec ce line-up, qui est très complémentaire. Bon, ça veut dire que les deux pilotes ont pu ne pas être au niveau quelquefois cette saison également. Mais l'autre est là pour rattraper, la F1 est également un travail d'équipe. Donc il faut le signaler, hein, je l'avais dit, de toute façon c'est un line-up très solide, et le classement au championnat des constructeurs, c'est-à-dire 5e de la part de Force India, le prouve, et nul doute que je vais en reparler dans une prochaine chronique, parce que c'est vraiment une grande performance qu'a accompli Force India dans son histoire récente. Enfin, une grande performance, une très bonne performance, on va pas non plus amplifier le phénomène. Et donc sur la fin de la saison, on a vu une série de Grands Prix, où on a beaucoup aperçu Sergio Pérez, plus qu'Hülkenberg. Et ça s'illustre par le podium en Russie, par exemple, du pilote mexicain. Et on a vu, d'autre part, Hülkenberg faire beaucoup d'erreurs. On l'a beaucoup vu faire de grossières erreurs, tout d'abord en Russie, au départ, et aux États-Unis lors de son dépassement sur Daniel Ricciardo, il me semble. Donc des erreurs qu'il ne nous a pas habitués à voir, et à faire, qu'il n'est pas habitué à faire. Donc c'est assez bizarre, et surtout voilà, quand on voit en plus le coéquipier qui explose, et de l'autre Hülkenberg qui fait l'inverse, qui fait des grossières erreurs, et ben ça amplifie le phénomène, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus, on se rend beaucoup plus compte de l'affaiblissement d'Hülkenberg durant cette fin de saison. Alors quelle est l'explication? Est-ce que ce serait le manque d'enjeu par exemple? Peut-être qu'Hülkenberg considère que la lutte pour le top 10 ne veut rien dire? Ce serait possible, c'est très subjectif chez les pilotes. Il y a certains pilotes comme Grosjean qui considèrent que le top 10, c'est jouable. C'est quand même un objectif intéressant d'être dans la première partie du tableau, d'être affiché en premier, on va dire, à la télé, et surtout pour la satisfaction personnelle, pour l'ego, pour l'orgueil. C'est intéressant pour la compétition, tout simplement, même, pour le sport. Et il y a d'autres pilotes qui considèrent que, pour eux, la F1, la lutte ne vaut le coup que quand elle est pour le titre et contre le coéquipier. Mais voilà, là j'en arrive au deuxième point. Tous les pilotes s'accorderaient à dire et s'accorderont à dire que la lutte contre leur coéquipier est la première lutte à remporter. Donc c'est une lutte importante qu'on ne peut négliger. Donc ça m'étonnerait qu'Hülkenberg l'ait négligé. Et là, il a laissé Pérez gagner. Enfin, il l'a laissé par ses erreurs. Et en plus, Pérez a fait des très bonnes performances. Donc là, c'est un peu moyen de la part d'Hülkenberg qui se fait battre cette saison par Sergio Pérez. C'est la première fois. Et c'est bien parce que du coup, oui, on voit un line-up qui s'échange les coups d'année en année et qui se pousse un peu l'un l'autre. Mais là, Hülkenberg, en fin de saison, il n'a pas fait le travail qu'il fallait. Et c'est bien dommage. Alors, une autre explication peut-être plus logique. Est-ce que c'est la fin de saison? On sait que la saison de F1 est usante et qu'arriver au mois d'octobre, mois de novembre, ça devient dur pour les pilotes qui ne voient pas souvent leur famille, qui ont envie de rentrer un peu chez eux, qui sont fatigués de tous ces voyages et tout, mais bon, ils sont toujours passionnés par leur sport, évidemment, par leur travail, mais ils ont envie de bien faire. Mais voilà, peut-être qu'ils sont un peu usés, donc peut-être que Hülkenberg a été usé, et peut-être aussi que son avenir qui a été assuré chez Force India il y a quelques mois, eh bien, a provoqué ce relâchement. Peut-être que les deux, quoi, fin de saison, donc l'usure et l'avenir assuré pour la saison prochaine, donc il n'a pas le stress d'être obligé de faire des très bonnes perfs pour se montrer. Peut-être que ça a eu un effet négatif sur lui, je dis bien négatif, hein, quelque part humain, mais négatif, c'est-à-dire de se relâcher tout d'abord et ensuite aussi de prendre des risques moins calculés. Ce qui n'était pas le cas avant, et là, on reprend l'exemple du dépassement sur Ricciardo. Je crois que c'est Ricciardo, hein, si je ne me trompe pas. Mais voilà. Donc est-ce que c'est ça? C'est une question ouverte. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir sur le Twitter d'Analyse F1, @F1Analyse, et sur la page Facebook d'Analyse F1, que vous trouverez facilement sur le moteur de recherche du site, ou même sur Google. Hein, je pense que ça doit s'afficher rapidement. Et également sur analysef1.podcloud.fr. Mais généralement, vous tapez analyse F1 sur Google. Ah oui, j'ai remarqué ça il y a très peu de temps. Analyse F1 sur Google, vous tombez directement sur le mini-site ou en tout cas la liste des podcasts sur PodCloud. Donc c'est parfait. Hein. Franchement, le référencement est bien, bien fait. Donc normalement, vous n'aurez pas de souci à me retrouver sur la toile, comme on dit. Donc voilà pour Hülkenberg. Voilà, mystère. En tout cas, c'est les deux éléments de réponse que j'ai à apporter sur ce pilote. Romain Grosjean, ensuite. Romain Grosjean, eh bien, c'est un peu pareil, sauf que lui, on en est presque sûr, hein, parce que ça coïncide, les dates coïncident. Depuis que son avenir est assuré chez As, depuis qu'il sait qu'il est chez As F1 Team, qu'il sait qu'il est en F1 en 2016 surtout, eh bien, on voit Romain Grosjean faire pas mal d'erreurs, il faut le dire. Souvent, je le mets en avant par rapport à Maldonado. Et à juste titre, vu qu'il est plus rapide que ce dernier. Mais là, ces derniers temps, c'est faiblard. Pas au niveau du rythme. Hein. Il a toujours le rythme en course. En qualification, il a toujours un rythme pur mieux que Maldonado. Mais on le voit faire des erreurs qui lui coûtent des points précieux. Hein. Par exemple, en Russie, où on pourrait supposer que c'est une erreur. Là, on n'en est pas sûr, par contre, en Russie. C'est pas le meilleur exemple. Mais quand il a perdu le contrôle de sa monoplace, et oui, peut-être que. Qu'avec les perturbations du flux aéro dû à la voiture devant lui, eh bien, peut-être que il n'a pas été assez vigilant sur ça, ou peut-être qu'il ne pouvait pas prévoir. Bref, ça, c'est pas l'exemple le plus parlant. Il y a un autre exemple plus parlant, c'est au Brésil, les qualifications où il fait une grossière erreur dans son tour de qualification en Q2. Il aurait pu se qualifier beaucoup mieux que ça, et malheureusement, il est parti assez loin, je crois, 13 ou 14e. Hein. Donc voilà, du coup il a dû avoir une course de battant, il l'a faite, la course, il a fait une bonne course, une très bonne course même, une course de battant où il a pu revenir dans les points en 8e place, donc c'est très bien, mais les qualifications n'étaient pas bonnes. Donc voilà, c'est deux exemples, hein. Il y en a peut-être d'autres, hein, de Grosjean, je sais qu'il a été pris dans des accrochages aussi dernièrement, avec pas mal d'abandons, hein, notamment, certains pas dus de sa faute, et certains autres où peut-être il n'a pas été assez vigilant au départ. Donc attention à Romain Grosjean de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Bon après pour le Brésil, pour l'histoire des qualifications, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, à savoir qu'on était le lendemain des attentats de Paris. Donc forcément, il n'avait vraiment pas toute sa concentration sur son travail. Je pense qu'il pensait surtout à sa famille, à sa femme et ses deux enfants, pour qu'ils soient en sécurité tout simplement. Donc c'est vrai qu'il avait peut-être pas toute sa concentration sur le travail, même s'il devrait, hein, en tant que professionnel, et tout simplement pour continuer à vivre, hein, tout simplement, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et bref, bon, c'est une nuance en tout cas à apporter à cette critique. Et en plus, à l'inverse de ses performances mauvaises, on va dire, de ces derniers temps, on voit un Maldonado plus régulier dans les points. Et qui fait enfin le minimum syndical qu'on lui demande, hein, c'est-à-dire il exploite le potentiel de sa monoplace normalement, voilà, sans en faire des tonnes, sans être exceptionnel, mais il est plus régulièrement dans les points. Donc c'est bien pour Maldonado. En rythme pur, comme je l'ai dit, il est toujours plus lent que Grosjean, mais il marque des points et il s'est rapproché de son coéquipier un petit peu quand même en deuxième partie de saison. Donc il faut signaler qu'en Pastore fait quand même des bonnes performances. Ensuite, il y a ça qui accentue le fait qu'on voit encore plus Grosjean à la peine. Et il y a aussi le fait tout simplement que Grosjean, en première partie de saison, et plus globalement, ben voilà, un peu toute la saison, il a eu des performances bonnes, voire très bonnes, hein. J'en veux pour preuve son podium à Spa, qui était assez fort. Donc voilà, des performances bonnes et très bonnes qu'on est habitué à voir, un coéquipier qui devient un peu plus fort, et dans le même temps, Grosjean qui fait des erreurs, donc forcément, on y voit tout de suite, et si je vois ça, nul doute que le paddock le voit encore plus, hein, et analyse vraiment, comment dire, à la donnée près, ses performances. Donc attention, Romain Grosjean, attention. Et enfin, on a Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, bon, je vais pas l'accabler parce que ces derniers temps, finalement, j'étais agréablement surpris de voir que finalement, ses performances globales, eh bien, il fait souvent des top 5, hein, en fin de saison. Il a souvent fait des top 5, souvent devant Massa. Et tout ce qu'on pourrait lui reprocher, peut-être, c'est d'être moins propre que d'habitude, tout simplement. Les accrochages avec Raikkonen, même si le premier accrochage, c'est vraiment Raikkonen qui allait au charbon. Et je pense que Bottas, il pouvait pas trop s'attendre à ce que Raikkonen arrive comme ça. Donc je parle de l'accrochage en Russie et ensuite la revanche du Mexique, on va dire, où Bottas est allé a eu un podium, hein, donc il a fait une bonne perf, mais il a pris un risque énorme parce qu'il aurait pu tout simplement aussi abandonner s'il a endommagé une pièce quelconque de sa monoplace qui lui oblige à rentrer au stand ou pour changer d'aileron ou de pneu ou abandonner. Ça aurait pu avoir des conséquences plus catastrophiques. Et bref, il est beaucoup moins propre qu'en 2014 où ses manœuvres, défensives et offensives, étaient bien plus matures, je trouve, que celles qu'on a vues au Mexique. Donc attention à Valtteri Bottas, mais après, voilà, c'est un peu le show aussi qui veut ça, c'est un peu la revanche entre deux Finlandais. Bottas, il veut être devant Raikkonen, il lui en veut de lui avoir fait louper le podium en Russie. Donc voilà, il lui rend la monnaie de sa pièce, il s'est dit non, bah je vais pas te laisser passer comme ça, je suis à l'intérieur, c'est mon virage, voilà, il a dit ça. Et c'était un incident de course, hein, finalement, parce que ni l'un ni l'autre n'ont lâché le bout de grain. Et au final, c'était dommage pour Raikkonen, mais ça aurait pu être dommage pour les deux, ou que pour Bottas. Voilà, c'est comme ça. Donc attention à Bottas, mais bon, Bottas c'est un phénomène, comme je le dis, beaucoup moins grand que Grosjean et Hülkenberg, où là vraiment, c'est vraiment sur la durée que ça s'inscrit, et des mauvaises performances. Mais bon, après avoir dit tout ça, ben, c'est bien beau d'avoir constaté, maintenant il faut un peu analyser. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion en fait de tout ça, des mauvaises performances d'Hülkenberg et Grosjean notamment? Est-ce qu'on doit les accabler? Est-ce qu'on doit au contraire oublier ces contre-performances qui sont au final que des exceptions dans leur carrière, hein, il faut le dire, hein. Si je mets dans le titre du podcast que ce sont de bons pilotes, eh bien logiquement, si je parle de leurs mauvaises perfs, c'est que ce n'est pas habituel, ce sont des exceptions. Donc est-ce qu'on oublie tout ça et puis voilà, c'est pas grave. Selon moi, c'est ni l'un ni l'autre, hein. Les deux, disons que accabler ou oublier, c'est vraiment les deux pensées assez extrêmes. Pour analyser ça. Et moi, je vais pas avoir ces pensées-là, parce que Hülkenberg et Grosjean et Bottas restent de très bons pilotes, qui ont mérité leur réputation. Donc ça ne change pas. En effet, leurs performances récentes sont des exceptions. Et la réalité de ces quelques courses ne vaut pas celle d'une saison, ni d'une carrière. Voilà, ça, je tiens bien à l'affirmer. On ne remet pas tout en question pour une course, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est ce que je critique très souvent dans l'analyse F1. C'est que beaucoup refusent l'analyse et préfèrent le buzz. Préfèrent le buzz à l'analyse. Et ça, c'est une insulte au métier de journaliste, hein, notamment, hein, pour ceux qui sont professionnels dans leur métier. C'est une véritable insulte à leur métier de faire ça, de prendre une course et de se dire, ouais, il a été trop bon sur une course, c'est le nouveau Schumacher, ou il a été trop mauvais, ben il est trop mauvais, qu'est-ce qui se passe, on doit s'inquiéter et tout. Non, non, il n'y a pas de polémique après une course. Là, après quelques courses, on peut se poser des questions, mais est-ce qu'on peut pour autant les enterrer, ces pilotes? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça l'analyse. C'est ça l'analyse. C'est vraiment d'analyser sur la longueur et d'essayer de voir objectivement ce qu'il en est. C'est ça, analyser fin. Ça, c'est la meilleure définition d'analyser fin que je peux faire, je pense. Mais voilà, il faut quand même dire qu'il y a du négatif. Je n'enterre pas tout non plus. Je n'enterre pas leurs mauvaises performances. Il ne faut pas les oublier. C'est quand même important dans leur carrière. Et ça leur est préjudiciable, ne serait-ce que cette saison. Quand on regarde objectivement, ce qu'ils ont pu louper comme point, c'est quand même assez gros, hein. Enfin, c'est quand même assez gros. À l'échelle de leurs écuries, c'est gros en tout cas, hein. Que ce soit au classement pilote ou constructeur d'ailleurs. Bon, Hülkenberg, c'est plus pilote. Et Grosjean, c'est plus constructeur. Et d'ailleurs, ça aurait pu faire beaucoup pour Lotus, hein, parce que ça aurait pu être très grave pour Lotus si jamais Toro Rosso, qui n'est pas très loin derrière et pourrait peut-être provoquer une surprise à Abu Dhabi, on ne sait jamais. À mon avis, ce ne sera pas le cas, hein, vu comment dire, les qualités des deux monoplaces, mais on ne sait jamais, une course à événements peut aussi entraîner une lourde défaite pour Lotus. Mais voilà, ça aurait pu faire beaucoup plus si jamais Toro Rosso avait au moins un pilote plus expérimenté, parce que Sainz et Verstappen, ils en ont mangé des points quand même. Mais ils ont mangé la feuille de match, comme on dit au foot. Je sais pas comment on peut dire en Formule 1. Ils ont mangé la feuille de course? Ah ouais, ça peut se dire, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord? On mangeait la feuille de course. Bon, allez, je dépose l'expression tout de suite. Bref, oui, Verstappen et Sainz ont mangé la feuille de course plus d'une fois cette saison. Sans ça, eh bien, Lotus aurait été derrière, hein, ça il faut bien le dire, hein, alors que c'est pas normal, c'est tout simplement pas normal. Et c'est dû à l'écurie, c'est dû aussi aux deux pilotes, surtout à Maldonado, qui n'a pas fait le boulot la majeure partie de la saison, mais aussi à Grosjean en fin de saison, qui s'est relâché, qui a fait pas mal d'erreurs. Voilà, il faut le dire également, donc attention. Et ça n'échappe pas aux yeux, ben, de leurs écuries, de leur patron, et également du paddock. Et donc, ça peut être préjudiciable également pour la suite de leur carrière, pas que pour cette saison. Parce que, en fait, sur ce coup-là, ces pilotes-là, Grosjean et Hülkenberg, ils ne montrent pas au top team, ils ne leur montrent pas qu'ils peuvent être irréprochables sur toute une saison. Ils leur montrent qu'ils ont des faiblesses à un moment ou à un autre. Et ça, un top team n'en a pas besoin de ça, n'en veut pas du tout. Parce que quand il s'agit de lutter pour un titre constructeur ou un titre pilote, eh bien, une faiblesse de 3-4 courses, bah, ça suffit à perdre un titre, hein, ça c'est clair. Hein. Ça, c'est clair et net. On l'a vu en 2014 avec Rosberg, par exemple, où les dernières courses de la saison, c'était plus compliqué pour lui. C'est un exemple. Voilà, après, ce raisonnement, il est peut-être un peu élitiste, on pourrait lui reprocher, on pourrait me dire, ah ouais, mais t'es un peu trop élitiste là, aucun pilote ne peut être parfait. Aucun pilote ne peut être parfait, évidemment, et là je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand c'est qu'une course, par exemple, de raté, comme a fait Vettel au Mexique, par exemple, où il a fait une course catastrophique, il n'était pas du tout là, il était frustré, il a fait une mauvaise course, ça s'est soldé, je crois, par un abandon, il me semble. Bref, c'était la cata. Quand c'est qu'une course dans une saison, bon, c'est normal, il y a toujours une course où un pilote est moins bien. Ça arrive même au meilleur, même à Hamilton, hein, ça c'est sûr. Donc là, ce n'est pas grave, c'est une exception, mais pour Hülkenberg et Grosjean, c'est un peu plus que ça quand même, c'est un peu plus qu'une course, c'est une période négative. Il y a eu plusieurs courses négatives pour eux où ils ont été bien en dessous de leur niveau. Enfin, bien en dessous de leur niveau, pas en termes de vitesse pure, évidemment, ça ils ne le perdent pas, mais en termes d'erreur. Hein. Une course de F1, ce n'est pas juste la vitesse pure, hein. C'est pas une course de contre-la-montre, hein. C'est une course avec d'autres pilotes et il faut savoir faire preuve de stratégie, de gestion, de prudence, d'attaque. Enfin, il faut savoir gérer plusieurs trucs, pas juste le rythme. Donc, dans tous ces points-là, il y a pas mal de points où Hülkenberg et Grosjean ont péché. Et il faut le dire, donc c'est vraiment négatif de ce point de vue-là. Et je ne pense pas être élitiste en disant ça, je pense être réaliste. Je pense être réaliste d'autant plus que c'est très dur aujourd'hui en Formule 1, peut-être plus qu'avant, de subsister, de rester en F1 et d'évoluer surtout, encore plus dur d'évoluer et de monter dans un top team, parce que généralement c'est bouché et il y a déjà des top pilotes dans les top teams, donc c'est très compliqué, et si en plus ils ne montrent pas toute l'étendue de leur talent, c'est compliqué. Mais voilà, on pourrait reprocher cette exigence à la Formule 1, mais moi je pense qu'on peut l'apprécier, l'observer, l'admirer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on attend d'un sport qui se veut, qui représente ce qui se fait de mieux en monoplace aujourd'hui. Et oui, quand on voit la Formule 1, on voit quand même des pilotes de grande qualité par rapport aux autres catégories en monoplace, hein. Donc on peut, je pense, louer ce fait-là qu'il y a de l'exigence en F1. S'il n'y avait pas d'exigence, s'il y avait moins d'exigence que cela, si on acceptait, on va dire, ce genre de période négative chez Hülkenberg et Grosjean, ça veut dire que ce serait la norme. Alors que non, c'est pas la norme, hein. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau chez ces pilotes. Ça veut dire qu'ils nous offrent quand même du grand pilotage de manière générale. Et là, ça baisse un peu. Il faut en parler et il faut dire ce que ça implique dans leur carrière. Concernant Hülkenberg, j'avais dit que Grosjean s'était rattrapé au Brésil. Hülkenberg, il s'est aussi rattrapé en Brésil. Au Brésil, il a fait 5 ou 6, je crois. Enfin, il a fait une bonne perf pour Force India, alors que de l'autre côté, eh bien, Pérez était moins bien. Donc là, on repart peut-être sur un cycle à toi, à moi. À voir à Abu Dhabi si ça se confirme. Mais en tout cas, il y a eu une période, c'est un fait, où Hülkenberg et Grosjean ont été moins bien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain. Je ne sais pas si ce sera le High Speed Dating ou un nouveau ou une nouvelle chronique. J'ai pas mal d'idées de chroniques, hein, il faut dire. Donc ce sera peut-être une nouvelle chronique avant le prochain HSD. Je vous remercie encore et passez une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Et n'oubliez pas, surtout, vivons notre passion. À bientôt.